La Sociale Le Mag, un podcast de la Cour de cassation. La jurisprudence de la Chambre sociale, racontée par ceux qui la font.
Avec aujourd'hui la participation de Clélia Prieur et Emmanuel Chiron, conseiller référendaire, et de Guillaume Fradin, directeur du service de communication de la Cour de cassation.
Bonjour, en ce mois de mai, la Sociale Le Mag se penche sur plusieurs décisions récentes rendues par la Chambre sociale de la Cour de cassation. Un point d'actualité d'abord, avec deux arrêts portant sur le reclassement du salarié en cas d'inaptitude. Place ensuite au décryptage. Clélia et Emmanuel, vous vous pencherez sur l'admissibilité des témoignages anonymisés.
Mais avant de commencer, puisque Guillaume, vous êtes parmi nous aujourd'hui, prenons un instant pour parler de la façon dont la Cour de cassation hiérarchise ses arrêts.
Peut-être nos auditeurs l'ignorent-ils, mais la Cour de cassation rend chaque année plus de 20 000 décisions. Et pour cause, contrairement à d'autres cours suprêmes, la Cour de cassation est tenue d'examiner tous les pourvois qui lui sont soumis. Or, ces 20 000 décisions n'ont pas toutes une portée doctrinale. Seules certaines d'entre elles font évoluer l'état du droit. On peut donc se demander comment, sans avoir à toutes les lire, il est possible de repérer instantanément celles des décisions qu'un praticien se doit de connaître, soit parce qu'elles font évoluer la jurisprudence, soit parce qu'elles donnent lieu à interprétation d'un texte nouveau, soit parce qu'elles comblent un vide juridique ou encore parce qu'elles rappellent l'importance d'une règle de droit.
Il est essentiel de donner au public des repères, et cela est d'autant plus vrai à l'ère de l'Internet et de l'open data, où l'information circule de façon massive et souvent indifférenciée. Deux sigles permettent aux chambres de signaler l'intérêt juridique des décisions qu'elles rendent, les lettres B et R, qui apparaissent en tête du texte de la décision.
Chaque année, ce sont approximativement 1500 décisions qui se distinguent par leur intérêt juridique. Ces décisions sont publiées dans un périodique accessible en ligne que l'on appelle le bulletin des arrêts. C'est d'ailleurs pour cela que vous entendrez fréquemment un magistrat parler d'arrêt publié pour dire que cet arrêt est important. Donc, la lettre B comme bulletin. C'est le premier étage de notre pyramide. Au sein de cette première sélection de décisions publiées au bulletin, une soixantaine d'entre elles sont particulièrement remarquables. Ce sont les décisions incontournables, celles qui façonnent l'état de notre droit. Le texte de la décision verra alors son en-tête marqué de la lettre R, puisque l'arrêt bénéficiera d'une publication au rapport annuel de la Cour de cassation. Vous l'aurez compris, nous sommes, pour reprendre l'image que j'ai utilisée il y a quelques instants, au sommet de notre pyramide. Alors attention, si tout au long de l'année, la Cour accompagne les publics dans la compréhension de ses décisions, que ce soit avec des communiqués de presse, des lettres de chambre ou des podcasts, et si bien évidemment, le plus souvent, ces actions de communication portent sur des arrêts ayant un intérêt juridique fort, c'est uniquement en se basant sur les sigles B et R, présents ou non en tête du texte d'une décision, que le praticien du droit en mesurera à coup sûr la portée doctrinale.
Nous reviendrons sur tout cela au fil de notre podcast.
Commençons par évoquer l'actualité de la Chambre sociale avec deux arrêts du 12 février et du 19 mars 2025 relatifs à l'obligation de reclassement de l'employeur en cas d'inaptitude du salarié à son poste de travail. Je précise que ce sont deux arrêts de formation de section publiés au bulletin des chambres civiles de la Cour de cassation. Guillaume Fradin, pouvez-vous nous expliquer ce que cela signifie ? Ces arrêts sont-ils importants ?
D'abord, il faut comprendre le circuit d'orientation des pourvois au sein des chambres. Lorsqu'un pourvoi pose une question de principe, il est orienté vers une formation de jugement qu'on appelle la formation de section. Cette question de principe est identifiée soit par le conseiller rapporteur en charge du dossier, soit par une autre formation de jugement que l'on appelle formation restreinte, composée de trois juges et vers laquelle le pourvoi avait été initialement orienté. Le pourvoi donne alors lieu à une audience en formation de section, au cours de laquelle les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation défendent la cause de leurs clients, pas toujours à l'oral puisque la procédure est écrite, et l'avocat général, lui, donne toujours son avis oral.
C'est effectivement l'ensemble de la section, c'est-à-dire une dizaine de conseillers et conseillers référendaires sous la présidence du président de chambre qui délibère et rend un arrêt.
Pour ma part, en termes de communication, je suis attentif au niveau de publication des arrêts de formation de section, qui est un premier niveau d'importance. Ils sont en effet publiés au bulletin des arrêts des chambres civiles lorsque le président, après consultation du doyen de section, estime qu'ils doivent recevoir une publicité particulière. Pourquoi, me direz-vous ? Parce qu'ils résolvent une question de droit nouvelle, ou qu'ils constituent un revirement de jurisprudence, ou encore que la solution adoptée présente un intérêt particulier pour les tribunaux et cours d'appel, ou pour les justiciables.
Je précise que cette publication donne lieu à la rédaction d'un sommaire par le rapporteur. Il s'agit d'un résumé de l'apport principal en droit qui figure en en-tête des supports de publication de l'arrêt.
C'est un premier niveau de publicité qui peut, comme pour nos deux arrêts d'actualité, être complété par une publication à la lettre de la Chambre sociale. J'invite d'ailleurs nos auditeurs à s'abonner à la lettre de la Chambre sociale que l'on trouve sur le site internet de la Cour de cassation, à la rubrique « Kiosque ».
Oui, c'est un outil de documentation et de travail très intéressant, car les arrêts publiés à la lettre sont accompagnés d'un commentaire qui les explique en resituant leur contexte. Alors Emmanuel, toi qui as participé à la formation de section ayant rendu le premier arrêt du 12 février 2025, quel en est l'apport ?
Cet arrêt porte sur la possibilité pour l'employeur d'être dispensé de l'obligation de reclassement lorsqu'une mention expresse du médecin du travail énonce que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Dans cet arrêt, la Cour de cassation précise qu'une telle dispense s'applique même si le médecin du travail n'a pas reproduit à l'identique ces termes dès lors qu'il a employé une formule équivalente. Il faut préciser que dans cette affaire, l'avis d'inaptitude datait du 25 septembre 2017. Cette date est importante, car il était postérieur au 1er janvier 2017, date d'entrée en vigueur de la loi du 8 août 2016, dite loi travail, et ce sont donc les règles issues de cette loi qui devaient s'appliquer.
Nous avons déjà vu, notamment dans les épisodes numéro 13, 23 et 24 du podcast La Sociale Le Mag, que cette loi a profondément modifié le régime de l'inaptitude. Mais en quoi l'intervention du législateur a-t-elle donné une importance particulière à la rédaction de l'avis du médecin du travail ?
Parce qu'avant son entrée en vigueur, l'employeur était tenu dans tous les cas de rechercher des possibilités de reclassement, même en présence d'un avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise. Or, désormais, l'article L1226.2.1 du Code du travail prévoit que l'employeur peut aussi rompre le contrat de travail s'il justifie de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Cela signifie donc que la présence dans l'avis du médecin du travail de cette mention expresse constitue désormais un motif en soi de licenciement pour inaptitude, au même titre que l'impossibilité de proposer un poste de reclassement.
Tout à fait. Et c'est donc assez logiquement que la Cour de cassation a décidé, par un arrêt du 8 février 2023 pour une inaptitude d'origine professionnelle, puis par un arrêt du 13 avril 2023 pour une inaptitude d'origine non professionnelle, qu'en présence de l'une de ces mentions, l'employeur est dispensé de la recherche de reclassement.
On comprend alors pourquoi il était nécessaire, dans notre dossier, de rechercher la portée de l'avis du médecin du travail. Et en quoi la manière dont l'avis du médecin du travail était rédigé posait difficulté ?
Parce qu'il était ainsi rédigé. Inapte à la reprise du poste occupé, l'état de santé du salarié ne permet pas de faire des propositions de reclassement au sein de l'entreprise, filiale et holding compris, et le rend inapte à tout poste. Il ne reprenait donc pas exactement les termes du Code du travail, et le salarié soutenait que l'employeur n'était alors pas dispensé de la recherche de reclassement. Et il est vrai que postérieurement à l'avis, un arrêté du 16 octobre 2017, modifié depuis par un arrêté du 3 mars 2025, fixant notamment un modèle d'avis d'inaptitude, a repris à l'identique les mentions de cet article en prévoyant un formulaire avec des cases à cocher.
Mais ce raisonnement n'a pas été suivi par la Cour de cassation dans l'arrêt que nous commentons aujourd'hui.
En effet, Car si le texte impose que l'avis du médecin du travail comporte une mention expresse, il n'exige pas pour autant qu'il s'agisse d'une reproduction fidèle des termes de cet article du Code du travail. Or, la Cour de cassation relève que la formule employée par le médecin du travail était équivalente.
On peut donc dire que la jurisprudence fait primer une recherche de la portée réelle de l'avis sur une approche formaliste qui reposerait sur l'emploi de formules types.
Exactement. Mais il est indispensable que la formule soit équivalente, c'est-à-dire qu'elle ait une portée identique. Ainsi, la Cour de cassation a déjà précisé que si la formule employée par le médecin du travail en limite la portée, par exemple en ne faisant référence qu'à une inaptitude dans l'entreprise, l'employeur n'est pas dispensé de son obligation de reclassement.
Le second arrêt de notre actualité du 19 mars 2025 est relatif à la définition du groupe de reclassement et concerne de nombreux salariés. Qu'a dit la Cour de cassation à ce sujet, Emmanuel ?
Elle est venue préciser que les caisses primaires d'assurance maladie ou CPAM ne pouvaient pas constituer un groupe de reclassement, en sorte qu'en cas d'inaptitude des salariés de ces organismes, la caisse n'est pas tenue de rechercher si des postes de reclassement sont disponibles au sein d'autres CPAM.
Pour comprendre cette affirmation, il faut retracer l'évolution de la notion de groupe de reclassement, qui a été modifiée cette fois-ci par l'une des ordonnances dites Macron du 22 septembre 2017.
Effectivement. À l'origine, la notion de groupe de reclassement est une notion jurisprudentielle. La Cour de cassation imposait à l'employeur, en cas d'avis d'inaptitude, de rechercher un poste de reclassement, non seulement au sein de l'entreprise, mais également au sein des entreprises du groupe auquel elle appartient, dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. C'est ce qu'on appelle le critère de permutabilité. Mais le législateur a introduit, par l'ordonnance du 22 septembre 2017, en plus du critère de permutabilité, une nouvelle définition, en précisant que la notion de groupe de reclassement désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies par le Code de commerce. Il a ainsi mis fin à la notion autonome de groupe en droit du travail pour s'aligner sur une définition dite capitalistique.
On peut noter que la même définition a été adoptée en matière de licenciement pour motif économique, comme nous l'avons dit dans le 34e épisode de notre podcast. Mais en quoi, ici, cette modification avait-elle un impact pour les salariés, dans l'hypothèse des CPAM ?
Parce que, bien que ces organismes soient des organismes de droit privé exerçant une mission de service public, la Cour de cassation avait admis qu'ils puissent constituer un groupe de reclassement à la condition que la permutation du personnel soit possible. Mais il fallait rechercher s'il répondait maintenant à la nouvelle définition d'un groupe constitué d'une entreprise dominante et des entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies par le Code de commerce.
Justement, les CPAM pouvaient-elles répondre aux conditions fixées par les articles du Code du commerce ?
La majorité des articles visés dans cette nouvelle définition, applicable aux seules sociétés commerciales, ne pouvaient recevoir application pour les CPAM, qui ne constituent pas des sociétés et dont le fonctionnement est régi par le Code de la sécurité sociale. Mais l'un de ces textes, l'article L233-16 du Code de commerce, prévoit que le contrôle exclusif ou conjoint peut résulter du droit d'exercer une influence dominante sur une entreprise, en vertu d'un contrat ou de clause statutaire, lorsque le droit applicable le permet. Et une partie de la doctrine invitait la jurisprudence à avoir une lecture autonome de ce texte, en l'étendant à toutes les hypothèses dans lesquelles une entité pouvait, en vertu de clauses statutaires, avoir une influence dominante sur d'autres entités, quel que soit leur statut juridique.
Cependant, malgré l'invitation de la doctrine, ce n'est pas la lecture qu'a adoptée la Cour de cassation.
En effet, Clélia, il faut rappeler que ce texte mentionne expressément les sociétés commerciales et ne vise donc pas toute entité économique susceptible de constituer une entreprise. La Cour de cassation approuve donc la Cour d'appel d'avoir retenu que la CPAM n'appartenait pas à un groupe au sens des articles du Code de commerce, et en déduit qu'elle n'était donc pas tenue de rechercher si les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation des CPAM permettaient d'y assurer la permutation de tout ou partie du personnel.
Si l'on résume pour déterminer l'étendue du périmètre de reclassement en cas d'inaptitude, il faut d'abord rechercher si l'entreprise appartient à un groupe au sens du Code du commerce. Si tel n'est pas le cas, et même si une permutation des emplois est possible avec d'autres entités, la recherche de reclassement ne doit intervenir qu'au sein de l'entreprise. Alors, quelle place reste-t-il pour la recherche de la permutabilité des emplois ?
Lorsque le groupe au sens capitalistique est caractérisé, il faut alors s'interroger également sur ce critère. Comme l'a rappelé un arrêt du 5 juillet 2023, ces deux critères sont, en effet, cumulatifs.
Il est donc primordial de déterminer l'existence d'un groupe au sens capitalistique pour connaître les obligations de l'employeur. Or, ces éléments peuvent être compliqués à réunir pour les plaideurs. Sur qui pèse alors la charge de prouver la consistance du groupe ?
La Cour de cassation a décidé en 2020, dans la continuité de la jurisprudence en matière de reclassement en cas de licenciement économique développé depuis 2016, que si la preuve de l'exécution de l'obligation de reclassement incombe à l'employeur, il appartient au juge, en cas de contestation sur l'existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui sont soumis par les parties.
Nous poursuivons la Sociale Le Mag avec notre décryptage d'un arrêt qui porte sur l'admissibilité de témoignages anonymisés. Nous ne parlons pas ici de témoignages totalement anonymes, issus de personnes dont on ignore l'identité. Ce dont nous parlons aujourd'hui, ce sont des témoignages rendus anonymes a posteriori, dans le but de protéger leurs auteurs, ces auteurs dont l'identité était connue de la partie qui les produit. Je précise tout de suite qu'il s'agit d'un arrêt important, rendu le 19 mars 2025 en formation plénière de chambre. Profitons-en pour préciser que la formation de jugement que l'on appelle la plénière de chambre est la formation de jugement la plus solennelle à l'échelle d'une chambre. C'est dans cette formation que la chambre se réunit pour traiter des questions de droit les plus complexes ou les plus importantes. Cette décision a fait l'objet d'une publication au bulletin, mais aussi et surtout au rapport annuel, preuve que cette décision fait partie des incontournables de l'année. À noter par ailleurs qu'en termes d'action de communication, il a été fait le choix de faire état de cette décision dans la lettre de la Chambre sociale pour lui donner un peu plus de visibilité encore. Alors, expliquez-nous, Clélia, pourquoi cette affaire dont vous étiez rapporteur mérite-t-elle ce niveau d'importance ?
Racontons d'abord tout simplement l'histoire dont nous étions saisis. Un salarié a été licencié pour faute. Il était ouvrier dans une industrie de métallurgie de Haute-Savoie et son employeur lui reprochait un comportement agressif à l'égard de certains salariés en horaire d'équipe d'après-midi, se manifestant par des menaces, des remarques désobligeantes, des intimidations et des propos violents. Il faisait véritablement régner, selon l'employeur au sein de l'entreprise, un climat de peur, tant verbalement que physiquement.
Et quelle a été la réaction de l'employeur ?
L'employeur avait été alerté par ses collègues. Il avait décidé de mener une enquête, puis avait changé le salarié d'équipe en l'affectant en équipe de nuit. Mais celui-ci avait repris de sa propre initiative son travail l'après-midi. Évidemment, ses collègues ont à nouveau alerté leur employeur, certains demandant à décaler leurs horaires ou menaçant même de quitter l'entreprise pour ne pas travailler avec lui. L'employeur, qui est tenu à une obligation de sécurité à l'égard de son personnel, avait besoin d'une preuve à l'appui du licenciement. Il a donc fait appel à un huissier de justice qui a établi deux constats d'audition des collègues se plaignant du comportement du salarié, dans des conditions garantissant leur anonymat, car ceux-ci craignaient des représailles de la part du salarié.
Précisons tout de suite que l'employeur ne produisait pas d'autres éléments de preuve que les deux constats d'huissier.
Effectivement, c'est la particularité de cette affaire. Elle vient préciser notre jurisprudence récente après l'arrêt publié du 19 avril 2023, dit Société Airbus Opérations. Jurisprudence dans laquelle les témoignages anonymisés produits par l'employeur n'étaient pas le seul élément de preuve. Dans cette affaire Airbus, la Cour de cassation a fait application des principes édictés par la Cour européenne des droits de l'homme en matière pénale au visa de l'article 6, paragraphes 1 et 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le droit à un procès équitable. Elle a reconnu que si le juge ne peut fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur des témoignages anonymes, il peut néanmoins prendre en considération des témoignages anonymisés lorsque ceux-ci sont corroborés par d'autres éléments permettant d'en analyser la crédibilité et la pertinence.
Et cette solution a-t-elle été confirmée ?
Effectivement, Elle a été appliquée au profit des pièces produites par un comité social et économique et de l'enquête contradictoire de l'inspecteur du travail ayant autorisé le licenciement disciplinaire d'un salarié protégé. À chaque fois, ces éléments de preuve contenant des témoignages anonymisés afin de protéger les salariés ayant témoigné d'éventuelles représailles étaient corroborés par d'autres éléments permettant d'en analyser la crédibilité et la pertinence.
Alors, qu'a décidé la Cour d'appel dans notre affaire, où il n'y avait apparemment pas d'autres éléments ?
Elle a considéré, pour dire le licenciement non fondé, qu'étaient dépourvus de valeur probante les deux constats d'audition aux fins de preuve produits par l'employeur et établis par huissier de justice, dès lors qu'ils consistaient en un recueil de témoignages anonymes de salariés de l'entreprise.
Mais la Cour de cassation a censuré l'arrêt d'appel. Quelles en sont les raisons ?
Il y en a plusieurs, Emmanuel. Nous avons dit d'une part que relève de l'admissibilité des preuves et non de l'examen au fond le fait de déclarer non probante une pièce au motif de son défaut de contradiction. D'autre part, il résultait des constatations de la Cour d'appel trois choses. D'abord, la teneur des témoignages anonymisés avait été portée à la connaissance du salarié. Ensuite, ces témoignages avaient été recueillis par un huissier de justice, désormais appelé commissaire de justice, qui est un officier public ministériel responsable de la rédaction de ses actes pour les indications matérielles qu'il a pu lui-même vérifier. Enfin, il n'était pas contesté que le salarié avait déjà été affecté à une équipe de nuit pour un comportement similaire à celui reproché dans la lettre de licenciement.
La Cour d'appel ne pouvait donc pas écarter ces témoignages au seul motif qu'ils étaient anonymisés. Et comment la Cour de cassation a-t-elle conclu son raisonnement ?
En procédant elle-même au contrôle de proportionnalité auquel invite la Cour européenne des droits de l'homme, y compris en matière civile. Nous avons ainsi dit que la production de ces témoignages anonymisés était indispensable à l'exercice du droit à la preuve de l'employeur, tenu d'assurer la sécurité et de protéger la santé des travailleurs, et que l'atteinte portée au principe d'égalité des armes était strictement proportionnée au but poursuivi.
Si l'on comprend bien, le principe de la contradiction et celui de l'égalité des armes, étroitement liés entre eux, sont des éléments fondamentaux de la notion de procès équitable au sens de l'article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne.
Exactement. Ils exigent un juste équilibre entre les parties. Chacune doit se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause, dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son ou ses adversaires. Toutefois, le droit à la divulgation des preuves pertinentes n'est pas absolu, en présence d'intérêts concurrents tels que, notamment, la nécessité de protéger des témoins risquant des représailles, qui doivent ces intérêts être mis en balance avec les droits du justiciable. Seules sont légitimes, au regard de l'article 6, paragraphe 1, les limitations des droits de la partie à la procédure qui n'atteignent pas ceux-ci dans leur substance. Pour cela, toutes les difficultés causées à la partie requérante par une limitation de ses droits doivent être suffisamment compensées par la procédure suivie devant les autorités judiciaires. Et la Cour européenne des droits de l'homme dit qu'il y a lieu pour le juge national de procéder à un examen au regard de la procédure considérée dans son ensemble et de rechercher si les limitations au principe de la contradiction et de l'égalité des armes telles qu'applicables dans la procédure civile, ont été suffisamment compensées par d'autres garanties procédurales.
Et la Cour de cassation a-t-elle eu d'autres sources d'inspiration dans son raisonnement ?
Oui, au moins deux. D'abord, l'arrêt d'assemblée plénière de la Cour de cassation du 22 décembre 2023 sur le droit à la preuve en matière civile. Cet arrêt concerne la preuve illicite, ce qui n'est pas le cas de constats d'huissier recueillant des témoignages qui ne sont ni illicites ni déloyaux dans leur obtention. Il s'inscrit dans une évolution du droit à la preuve qui amène la Cour de cassation, lorsque leur production est discutée au regard du principe du contradictoire, à apprécier le caractère équitable de la procédure dans son ensemble en faisant la balance des intérêts en présence.
Alors, j'en profite, vous venez de parler à l'instant d'assemblée plénière de la Cour de cassation. Il s'agit cette fois de la formation de jugement la plus solennelle présidé par le plus haut magistrat de France, le premier président de la Cour de cassation. Dans cette formation, les six chambres sont représentées. Il va sans dire que les décisions rendues par l'Assemblée plénière ont la plus grande autorité et ont vocation à être publiées au rapport annuel.
Et quelle a été l'autre source d'inspiration de notre affaire ?
La jurisprudence du Conseil d'État. En effet, Le Conseil d'État admet largement cet aménagement du principe de la contradiction en faveur de la recevabilité des témoignages anonymisés à propos de salariés protégés ou de fonctionnaires.
On y perçoit un dialogue informel des juges des juridictions suprêmes par l'inspiration mutuelle et la volonté partagée de cohérence. C'est la fin de ce podcast. Vous pourrez retrouver les arrêts que nous vous avons présentés sur le site de la Cour de cassation et notamment dans la lettre de la Chambre sociale numéro 28.
Merci Guillaume. Merci également à l'équipe d'Amicus Radio pour leur soutien technique et leur précieuse assistance. À bientôt Emmanuel.
Au revoir Clélia.